Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mères entrepreneurs multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, experte en stratégie de contenu et email marketing et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à créer du lien avec leur audience grâce à une communication authentique. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Si aujourd'hui tu peux écouter ce podcast, c'est grâce à la communauté OREMA, un espace positif à destination des mères entrepreneurs, mêlant le réseau professionnel et la communauté d'entraide. Alors rejoins-nous et sors de la solitude de l'entrepreneur, en te rendant sur orema.fr/communauté. Pour ne manquer aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Bienvenue dans la dernière partie de l'épisode que j'ai enregistré avec Khadija. Dans l'épisode précédent, tu as pu entendre l'histoire de la fille de 21 ans qui est arrivée de Casablanca et s'est bâtie la vie professionnelle de ses rêves dans l'expertise comptable. Elle a aussi partagé avec nous sa vision du féminisme et sa conception de l'équilibre vie pro-vie familiale quand on est mère et dirigeante d'entreprise. Dans la suite de notre échange, Khadija répond aux questions fréquemment posées par les jeunes entrepreneurs ou porteuses de projets autour du statut juridique, de la comptabilité, des financements et de la relation client. Merci encore à Khadija pour tout ce qu'elle a partagé avec nous. Et bien sûr, je te mets le lien de son profil LinkedIn pour la retrouver si tu souhaites la suivre dans les notes de l'épisode. Alors, tu es expert comptable. Oui. Et les personnes qui nous écoutent sont beaucoup des mamans qui ont des projets d'entreprise ou qui ont lancé leur entreprise et qui se posent pas mal de questions par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a une question qui revient beaucoup quand on a commencé à faire du chiffre d'affaires, c'est finalement, c'est une question fatidique et en fait, on a aussi l'impression que si on fait un choix, c'est pour toute la vie jusqu'à la mort. Quelle est
le statut juridique.
Comment ?
Le statut juridique, voilà. J'ai deviné. J'accompagne des porteurs de projets, donc je sais. J'adore. C'est la question aussi que j'ai tout le temps des porteurs de projets. Je vais faire un chiffre d'affaires, je suis comme ça, mais c'est quoi le meilleur statut juridique ou la meilleure forme juridique ? Alors, moi, en fait, si tu veux, quand j'accompagne des porteurs de projets, je regarde le projet, je regarde aussi le porteur de projet et l'objectif et le développement de la boîte. Si ton objectif, c'est de développer et de faire de toi, j'allais dire, leader du marché, c'est OK. Si tu veux être tranquille, tu fais ton chiffre d'affaires le maximum que tu peux et tu es tranquillement en fait chez toi et de vivre en fait ta vie, c'est OK aussi, mais il faut le savoir. Alors pour la forme juridique, donc ça dépend de l'activité, ça dépend de la personne, ça dépend de son acquis, son background, ses expériences, ça dépend de son activité à elle ou à lui, n'importe. Et c'est la recette de toutes ces compositions-là qu'on détermine un choix stratégique juridique. Pourquoi stratégique ? Parce que il y a aussi l'optimisation fiscale, l'optimisation sociale aussi. Un statut, une SARL par exemple, n'est pas une SAS, n'est pas auto-entrepreneur, n'est pas entreprise individuelle. Il faut savoir en fait tenir compte de tous ces composants pour le faire. Alors, pour rassurer tout le monde, quand on choisit un statut juridique, au départ, ce n'est pas fixe toute la vie. Tu peux changer autant que tu veux en fonction de là où tu es et de là où l'activité te mène. Juste une petite, un petit guillemet, pour le statut auto-entrepreneur, un petit conseil, parce que plusieurs mamans sont dans ce cas-là. Un petit conseil, si on est dans une prestation de service, ça peut être hyper avantageux si on n'a pas de charge. C'est-à-dire que si les charges de fonctionnement en fait, de ton entreprise ne dépassent pas 20%, 25% de ton chiffre d'affaires, ça reste quand même intéressant à voir. D'accord ? Mais s'il n'y a pas de charge au niveau auto-entrepreneur, ça peut avoir, j'allais dire, l'avantage. Si, au contraire, on est dans une espèce de d'achat-vente, là, c'est mort. C'est pas avantageux du tout. D'accord ? Maintenant, ça, c'est juste un principe de base. Mais chaque entreprise, même en prestation de service, il peut y avoir en fait des petits éléments qui se disent c'est peut-être pas avantageux. Par exemple, pour quelque chose de pratico-pratique, la dirigeante ou le dirigeant qui est auto-entrepreneur, mais qui a besoin de matériel, qui a besoin de local, qui a besoin d'aller à droite et à gauche parce que les frais de déplacement, on les compte pas, parce qu'on dit que c'est ma voiture, mais non, c'est la voiture, mais tu le fonctionnes avec la société. Donc, tous ces petits frais cachés, et qu'on dit le loyer, non, je suis à ma maison, donc mais on a oublié qu'il y a l'électricité, le téléphone et Internet. Donc ça, c'est des frais cachés, même si c'est chez toi, mais c'est ton entreprise. Le loyer aussi, les frais kilométriques, le matériel. Donc tout ça, mené bout à bout, pourrait en fait être conséquent par rapport à l'auto-entreprise. Donc c'est pour ça, petit aparté pour ça qui est normal. Après, il y a l'entreprise individuelle, il y a les SARL, etc. Mais sachez que ce n'est pas fixe. Ce n'est pas pour toute la vie. Même si on se trompe, on peut changer. On peut créer une SARL. Et si on se trompe des SARL, on peut la transformer en SAS. Et si on est SAS et on se trompe, on peut se transformer en SARL et c'est OK.
Ok, ça c'est rassurant et c'est bon à savoir quand on a envie de se lancer dans la création d'une société à proprement parler. Est-ce que tu sais s'il existe des financements spécifiques pour les femmes entrepreneurs?
Oui, alors ça dépend aussi pareil des activités, mais tu peux avoir des fonds qui sont spécifiques pour les femmes. Il y a France Active, il y a des fonds pour les femmes, il y a des subventions spécifiques. Il y a la BPI aussi, ils ont des fonds spécifiques pour les femmes. On peut avoir aussi des prêts d'honneur. Après ça dépend vraiment des secteurs et ça dépend vraiment des activités qu'on fait, mais les fonds ça existe. Après il y a pas que les fonds pour les femmes, hein. Il y a aussi les femmes peuvent concourir à tous les fonds. Voilà, il y a pas, c'est pas parce que de l'humanité, mais en fait c'est accessible à tous.
Oui, oui, oui.
Et à toutes.
Oui, c'est très c'est bon à savoir parce que finalement le financement, l'argent, quoi. Mmh. C'est un énorme blocage pour beaucoup de personnes qui ont ces idées là ou bien qui ont commencé et qui se retrouvent face un peu à un mur ou un plafond, de savoir que il y a possibilité de trouver de l'argent pour pouvoir soit se lancer, pour pouvoir soit améliorer ce qu'on fait déjà, c'est super super important et intéressant à savoir. À quel moment est-ce qu'on a des obligations comptables et comment est-ce qu'on peut commencer avec ça d'une manière simple?
Alors, obligations comptables. Alors, sachez que même en auto-entreprise, on doit tenir un livre de caisse et un livre de recettes et dépenses. Ça, c'est la base, le B.A.B.A. de la comptabilité. On n'a pas besoin de comptable parce qu'il n'y a pas besoin de déclaration, quoique il y a la déclaration URSSAF, etc. Mais au moment où on passe d'auto-entrepreneur à une entreprise au réel, là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des liasses fiscales, c'est un bilan, etc. Après, j'ai tendance à dire, on n'a pas besoin de comptable. Mais si, par exemple, une personne, elle sait faire sa comptabilité, elle sait faire les liasses, elle peut le faire elle-même. T'as pas besoin d'expert comptable. Mais c'est le temps que tu vas passer dans tout ce qui est administratif et l'obligation comptable et fiscale que tu vas faire, que tu vas perdre pour faire ton vrai métier. Donc, l'idée, c'est de s'entourer en fait de bonnes personnes pour le faire. Obligation comptable pour... Alors, au niveau auto-entrepreneur, si je pars de là, il y a le petit livret dépenses recettes, déclaration URSSAF, mais il y a aussi, quand on dépasse un certain seuil qui est 36 000 euros de tolérance, il y a le passage à la TVA. Il y a le passage à la TVA, donc il y a une déclaration TVA à faire. Donc voilà, ça c'est pour les auto-entrepreneurs. Après, par la suite, c'est une comptabilité réelle qu'on peut faire. Maintenant, j'allais dire, c'est ça reste de l'obligation légale, mais il ne faut pas être effrayé par rapport à ça. Il y a des bonnes personnes avec, à qui vous pouvez en fait le donner, notamment des experts comptables. Mais ce que j'ai tendance à dire, que la comptabilité, il ne faut pas la voir aussi non plus comme obligation, que obligation légale. La comptabilité, elle vous donne des informations sur le bien-être de l'entreprise. Est-ce que mon entreprise est rentable ou pas rentable? Est-ce que mon projet il est viable ou pas viable? C'est grâce à la comptabilité qu'on voit. C'est pas la trésorerie, c'est pas le compte bancaire. C'est vraiment la comptabilité en général. Le chiffre d'affaires, les achats, la marge. Ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous donner, en fait, cette indication de performance de l'entreprise.
Mmh. Donc, c'est pas que quelque chose qu'on fait pour nous embêter, là.
Un petit peu, oui, mais administrativement parlant, oui, mais ouais, utile, c'est des informations. Il faut, ouais.
Parce qu'après tout, ouais. Voilà, l'entreprise, c'est fait pour générer de l'argent.
Tout à fait.
L'argent circule.
Exactement.
Et il faut vraiment...
C'est surtout bien le piloter que c'est intéressant. Et le piloter sans le connaître, sans savoir, ou juste aller foncer droit, et puis générer. Même une entreprise qui génère énormément d'argent, au bout d'un moment, si elle ne sait pas l'utiliser, si elle fait des mauvais investissements ou si elle fait des mauvais choix stratégiques, ben, à un moment donné, elle va se retrouver droit dans le mur. Donc, l'idée, c'est vraiment bien le piloter et de manière stratégique.
Est-ce que tu as... des outils un peu que tu peux recommander
Des outils comme quoi?
Des outils, comment
des outils pour piloter?
Voilà, pour piloter sa Alors, comptabilité.
Franchement, ça part
d'un tableau Excel.
Voilà, ça part d'un simple tableau Excel qu'on peut gérer. Alors, moi, j'ai des modèles de tableau Excel quand je fais des animations, tu sais, dans les incubateurs. Exactement, c'est chez Singa, c'est chez Pour Toi l'Entrepreneur ou Entreprendre dans la Ville. J'anime en fait des modules, soit statut juridique, soit les modules finance, tout ce qui est prévisionnel et tableau de bord. Franchement, je leur montre en fait un tableau Excel basique. Alors, quand je dis basique, c'est le chiffre d'affaires, alors hors taxe ou TVA ou TTC, et la somme de toutes les dépenses. Et vraiment, en fait, mettre toutes les dépenses, y compris celles que je vous ai dit cachées, où c'est chez soi et puis on a le téléphone, Internet et le loyer, où c'est la voiture et puis on est à droite et à gauche en déplacement et carburant, etc. Mais vraiment, toutes les mettre pour, à la fin, chiffre d'affaires moins les dépenses, ça renseigne sur le résultat. Et donc, ce résultat, c'est là où tu vois si tu es rentable ou pas rentable, mais à condition de tracer toutes les dépenses et tracer le chiffre d'affaires. Dans le même tableau, il y a la feuille et une autre feuille de gestion de prévisionnel. C'est-à-dire que on fait une colonne prévisionnelle par mois et une colonne réalisée pour savoir où est-ce qu'on est. Toujours cet objectif, les objectifs de l'année, les tracés prévisionnels, et chaque mois tu remplis par ce que tu as réalisé, parce que ça te permet de dire bah, j'ai prévu, je sais pas moi, 1000 euros ou 2000 euros ou 5000 euros par mois, j'en ai réalisé 4000, pourquoi? J'en ai réalisé 10 000 et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui m'a permis de? Et ça te donne un tableau de bord qui permet de prendre des décisions stratégiques. Bah, si ma campagne de communication sur Insta elle a fonctionné, bah, je vais la reproduire le mois prochain et je vais voir comment ça marche. Ça, c'est une décision. Et après, tu as une autre feuille qui est hyper, j'allais dire, importante, c'est la trésorerie. Combien tu rentres, combien tu sors, combien il reste dans ta poche. C'est, j'allais dire, le plus basique de l'outil, c'est Excel. Après, moi, au niveau de mes clients, je leur mets en place des outils en fait, de pilotage d'entreprise avec et le logiciel de facturation, et la banque, et les achats, et les notes de frais, le tout dans un seul outil de pilotage d'entreprise, avec des tableaux de bord. En fait, le portail, quand il s'ouvre en fait en collaboratif, on voit en fait déjà qu'est-ce que j'ai réalisé comme vente, qu'est-ce que j'ai réalisé comme marge, mon solde bancaire, au lieu de, j'allais dire, d'ouvrir un logiciel de facturation, regarder mes tableaux Excel des achats, regarder mon application. Là, c'est tout en un.
Le d'aller chercher à gauche, à droite.
Exactement. C'est tout en un, c'est centralisé et c'est collaboratif et ça permet vraiment en fait au jour le jour, semaine semaine, gérer cette l'entreprise. Par exemple, je te dis dans le module vente, quand tu crées ton devis, tu envoies la facture par mail. Si elle est pas payée au bout d'un mois, bah en un clic, il y a la relance qui s'envoie par mail.
Génial.
Ah, mais c'est agréable. Et en plus, dans cet outil, tu peux même, j'allais dire, envoyer un lien de paiement via Stripe. C'est top. Franchement, c'est génial. Mais en fait, j'ai choisi cet outil. Ça fait depuis octobre 2022. Et j'équipe mes clients dessus parce que pour moi, c'est le meilleur en fait, outil de pilotage d'entreprise qui puisse exister. Et aussi, ça permet aussi que nous, en fait, en back-office, de suivre en fait la société, suivre l'entreprise, mais vraiment en fait tout le temps, ouais, en totale collaboration
et en temps réel.
Et en fait, pour les personnes qui ont ces tableaux de bord mais qui peuvent pas, qui savent pas décider stratégiquement parlant. Bah, nous, on est là pour qu'est-ce que tu peux mettre en place stratégiquement parlant. Bah, par exemple, on m'appelle, ils appellent mes collaborateurs. Je dois investir. Est-ce que c'est le moment? Pas le moment. Je dois acheter une voiture. Est-ce que c'est en leasing ou en achat? Tu vois, c'est ce genre en fait de mission conseil stratégique que nous, en fait, on accompagne grâce à cet outil-là. Donc, la comptabilité, ça devient un jeu pour nous et pour le client qui devient vraiment des clés de performance pour avancer.
Super, c'est génial. Alors, je ne te demande pas c'est quoi le nom d'outil parce qu'on n'a pas de partenariat avec eux.
Non. Moi non plus. Voilà, je n'ai pas encore signé d'offre de partenariat, je rigole.
Alors, avant de venir ici, j'ai fait une story sur Insta en disant que j'allais un entretien avec toi. Bon, j'avais pas dit que c'était toi, mais donc...
D'accord.
Et j'ai demandé, est-ce que vous avez des questions pour elle? Donc là, pour clôturer notre échange,
j'adore.
J'ai deux petites questions donc, qu'on m'a posées pour toi. La première, c'est... J'ai envie d'investir, je ne m'y connais pas du tout, je ne sais pas du tout par où commencer. J'ai 2000 euros.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux faire
avec 2000 euros? Mais investir dans quoi? Ah. Et est-ce que tu as besoin d'investir? En fait, c'est la question, c'est j'ai 2000 euros. J'en fais quoi ou j'investis dans quoi?
J'ai envie d'investir. C'est un peu la mode en ce moment.
Ouais.
Ou peut-être que parce que, enfin, c'est pas moi.
Hein, je comprends.
J'ai pas creusé, mais j'imagine.
D'accord.
Parce qu'on parle beaucoup d'investissement en ce moment.
Ouais.
J'ai envie aussi de diversifier mes revenus.
Oui.
Donc j'ai cette somme-là, j'ai cette possibilité-là.
Il y a pas mal de façons en fait investir déjà.
Mais sans trop de risques, je pense que.
Voilà.
Voilà. Les... Ouais. Je pense qu'il y a toujours un risque.
Il y a toujours un risque d'investissement.
Il faut être prêt à prendre.
Voilà. Alors, en fait, il y a investissement et investissement. Donc, déjà, 2000 euros, j'ai 2000 euros, je dois l'investir. Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on a ce besoin d'investir? Ce n'est pas parce qu'on a 2000 euros qu'on doit investir tout de suite. Si, par exemple, cette personne a une entreprise, ou une auto-entreprise, peu importe. Et elle a 2000 euros et elle veut l'investir. Maintenant, c'est de savoir, stratégiquement parlant, en quoi. Et la deuxième question, est-ce que cet investissement va lui rapporter ? Parce que investir, dans des obligations, dans des actions qui ne vont rien rapporter, ça ne sert à rien. Donc, c'est toujours voir investissement, ses coûts, et versus retour, retour d'investissement, le ROI. Quoi.
Mmh. Okay. Donc, les questions à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'investir ?
Ce n'est pas parce que c'est à la mode, mais est-ce que j'ai vraiment... Et est-ce que dans l'objet ou le matériel ou cet investissement, j'en ai vraiment besoin ? Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est pour, juste investir et sortir de l'argent, ça ne sert à rien. Mmh. Okay. Moi, je suis une partisane de la sécurité. Mm-hmm. Maintenant, on regarde toujours en fait l'investissement versus qu'est-ce que ça va me rapporter. J'investis dans un mug. Si ce mug-là, c'est pour le vendre, bah oui, mais je veux le vendre à combien ? Et si c'est intéressant d'investir dans les achats de mugs pour les vendre, et qu'est-ce que ça va me rapporter ?
Et si c'est dans une société,
pareil, bien voir la société, ce qu'elle vaut. Si j'ai investi 2000 euros pour acheter deux actions qui valent 2000 euros en tout, est-ce que la société, est-ce qu'elle est bénéficiaire ? Est-ce que demain, elle peut me rapporter en fait des dividendes, par exemple ?
Donc, ouais, et peut-être se demander aussi finalement qu'est-ce que j'aime. Parce que si j'ai envie d'investir, si je n'ai aucun intérêt particulier, on va dire un exemple au hasard, dans le BTP, c'est pas parce qu'on va me dire investir dans le BTP que je vais y aller alors que je n'aime pas et que j'aime pas.
Bah, exactement.
Quelque chose sur quoi j'ai un peu d'appétence et où je vois que c'est plus ou moins porteur. Mm-hmm. La deuxième question, enfin la seconde d'ailleurs, parce que du coup c'est la dernière, c'est. Comment est-ce que je gère les clients qui sont difficiles ? Pour rester poli, parce qu'ils nous écoutent peut-être.
les clients difficiles.
Qui sont parfois, même pas respectueux parfois. Ah. Comment est-ce que, en tant que entrepreneur ou chef d'entreprise, comment je gère ça, quoi ?
Ok. Alors, j'en ai des clients difficiles, peut-être qu'ils m'écoutent. Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à dire, c'est comme pour l'investissement, les écouter, savoir en fait c'est quoi leurs préoccupations, pourquoi par exemple ils demandent des choses ou quoi. Bah, déjà en fait, si leur demande elle est légitime, parce qu'en fait c'est ces clients difficiles qui te renseignent énormément sur ta relation client et sur comment tu veux travailler avec eux. Ça, c'est une première chose. Si c'est la question ou la préoccupation, elle est légitime, il faut savoir, en l'écoutant, il faut savoir leur répondre. Combien même ils sont difficiles, il y a toujours une part de communication. C'est de voir en fait comment ils communiquent. Parce que peut-être qu'on perçoit le client comme difficile parce qu'on n'a pas le même canal de communication. Peut-être que lui, il va te demander quelque chose, mais il y a une demande cachée derrière. Il faut savoir, nous, comment poser des questions et aller chercher vraiment le besoin à l'intérieur de cette question. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, qui sont, tu m'as dit, difficiles et
irrespectueux,
là, ma foi, je coupe court à la relation. Alors, j'aime dire, j'ai le droit de dire non. J'aime mes valeurs et je suis alignée avec ça. Donc, ceux qui sont difficiles, constructive, tu l'écoutes, tu vois le besoin, tu réponds. Mais quand c'est difficile et irrespectueux, là, tu l'écoutes parce que tu peux pas faire autre chose. Il faut pas aller en fait dans le sens où tu vas devenir irrespectueuse aussi ou respectueux aussi. Mais tu vas cadrer la relation en disant. Là, il y a une ligne qui a été franchie, c'est le respect. Et quand ça, dans les relations, alors humaines, contractuelles, tout ce que tu veux, la ligne elle est franchie du respect, il vaut mieux couper court. Parce que déjà, s'il y a irrespect, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de confiance, il y a mésentente, et t'as beau faire ce que tu veux, il ne sera jamais satisfait ou satisfaite. Du coup, à un moment donné, il faut savoir arrêter la relation. Ça ne sert à rien d'avoir en fait une relation nauséabonde avec un client parce que ça ne peut que t'impacter toi, impacter ton entreprise et impacter le reste. Combien même c'est le seul client ? Je dis bien combien même c'est le seul client, parce que des fois on se dit mais non mais c'est mon seul client, mais c'est lui nana. Mais si tu franchis déjà cette barre de respect, c'est même pas la peine. C'est pas un client pour moi.
Parce que finalement que vaut la rémunération que te donne ce client là ?
Aucune.
Est-ce que ça vaut ta santé mentale, ta...
Exactement. Je préfère arrêter. Et être alignée avec moi-même, avec mes valeurs et avec ce que je vaux. D'accord, j'allais dire qu'un client, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Nos profils, ils ne seront jamais en fait satisfaisants pour tout le monde. On peut avoir des clients satisfaits comme on peut avoir des clients pas satisfaits parce que pour le simple fait que, par exemple, t'as fait une erreur ou t'as pas accroché avec l'appel ou juste en fait à un moment donné t'es pas bien et ce client là il a perçu parce que c'est toujours on parle toujours de perception de la chose. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde et c'est ça en fait en lui-même tu dois l'accepter. Et nous en fait je parle de nous femmes. On a toujours ce sentiment en fait de plaire ou d'être aimé par nos clients. Mais à un moment donné, il faut pas s'oublier, il faut pas oublier que on a du boulot et on fait du boulot, on le fait bien. Et à un moment donné, quand ça devient, j'allais dire, client difficile et qu'il te renvoie comme quoi tu as une erreur, tu assumes l'erreur si tu l'as faite. Mais si ça dépasse en fait le respect. Là, moi, je dis non. C'est combien même, c'est mon seul client, je dis non. Mmh.
D'où aussi l'intérêt parfois, selon comment est le client aussi, d'avoir eu soit un contrat ou bien des CGV avant.
Bien sûr.
Lui, recoller son
cadrer. Cadrer la relation.
Dire, voilà, exactement. On est tombé d'accord sur ça.
Exact.
Là, ce que tu me demandes, ça dépasse totalement ce qui était prévu au départ. Moi, j'ai pas signé pour ça. Et d'ailleurs, toi non plus.
Voilà.
Donc, ça s'arrête là.
Exactement.
On est dans une relation professionnelle.
Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tu poses le cadre parce que ça sert à rien, en fait, de partir dans des noms d'oiseaux ou quoi que ce soit. Mais tu poses le cadre du cadre relationnel de façon factuelle, pas de l'émotion, même si devant toi, mais tu bouillonnes à 300%, tu poses, j'allais dire, de façon factuelle les choses et à un moment donné, en fait, si, tu vois, j'aime bien, en fait, j'ai entendu la dernière fois, quand tu dis non à quelqu'un, tu dis oui à toi-même. Donc, quand tu dis non à une forme de non-respect, tu te respectes toi-même. Donc, du coup, pour moi, bah, c'est... Très belle fin. J'adore.
Merci, Mille. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
C'était un bel échange. Merci beaucoup à toi aussi.
Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, plusieurs options s'offrent à toi. Et dans tous les cas, je te remercie d'avance. Tu peux laisser des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partager en me taguant sur les réseaux sociaux et même en transférer directement le lien à tes proches que le sujet pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin sur les thèmes abordés dans le podcast, inscris-toi à la newsletter sur orema.fr/newsletter et reçois le mail du lundi pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables pour mieux communiquer. Ton inscription te donne aussi accès à la boîte à succès des mères entrepreneurs, une bibliothèque de plus de 30 ressources pour optimiser ta communication et tendre vers un meilleur équilibre vie pro-vie familiale. Enfin, rejoins-nous sur Instagram @orema-communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.